Let's roll. save the money. Ain't you worried about karma? I treat them like Chubb Rock and let that be the armor. Harbor a hoe is no way to live. After every work day, I need first dibs. Anti-rest haven.
Man, I've sent so many bitches, man.
I give them more hell than Wes Craven. No breaks, no mistakes, no give that. I gave you game, bitch. Now it's your turn to give back. Help me, help you. That's the motto, shit. Every day it's like I hit the lotto.
Vous écoutez Radio Libertaire au 89.4. Il est 10h en ce samedi ensoleillé à Paris et c'est donc l'heure de retrouver l'émission Délibéré. Donc côté équipe, Mariam est avec nous en studio.
Salut Mariam.
La régie technique est assurée par Iris cette fois-ci. Merci Iris.
Merci à toi et merci surtout de nous avoir rejoints puisque nous avons donc la chance de t'avoir comme nouvelle acolyte. Je te présente donc à nos auditeurs et auditrices. Bonjour Luc.
Oui, c'est moi. Bonjour tout le monde. Donc notre invité du jour est Antoine, donc porte-parole à Alternativa. Salut à toi Antoine et puis bah merci d'être là aussi.
Bonjour tout le monde.
Alors du coup, méga feu au Canada, température record en Antarctique, perspective d'un été sans banquise. Bon, difficile d'ignorer l'actualité climat ces dernières semaines. Mais au-delà de cette liste qui est certes un peu anxiogène, le changement climatique n'est pas juste une question scientifique, c'est avant tout une question politique, une question de récit et une question de lutte. Alors accrochez-vous à votre casque Bluetooth ou votre poste radiophonique, car ce matin, on va parler lutte sociale climatique et récit écologique. Parce que si on en croit un sondage, enfin quelques sondages récents d'ailleurs, le changement climatique, ça reste une préoccupation majeure des étudiants, et des 18-30 ans en général, mais préoccupation n'est pas action. Alors comment on passe de l'une à l'autre? Quels sont les imaginaires qui sont portés par les différents mouvements écologistes, pour le passage à l'action justement, et quels modes d'action vont en découler? Donc ça, c'est beaucoup de questions qu'on a envie d'aborder avec toi, Antoine. Et donc, tu es militant à Alternativa, porte-parole aussi. Et tu as participé au blocage de la GET Total le 26 mai dernier, c'est exact?
Tout à fait, c'est ça. Donc moi, c'est Antoine et je suis porte-parole d'Alternativa Paris, ouais, qui est une antenne locale du mouvement national Alternativa.
Okay.
Et je suis dans le mouvement depuis 2019 maintenant, en titre bénévole.
Ok, donc bénévole et porte-parole depuis 2019.
Bénévole et porte-parole depuis un an, porte-parole, et bénévole depuis 4 ans.
Ok. Et donc Alternativa Paris, parce que tu dis qu'il y a plusieurs antennes d'Alternativa coordonnées un peu partout en France.
Exactement, Alternativa c'est un mouvement national et il y a actuellement là, sur le territoire français à peu près 75 groupes locaux. Et du coup moi je fais partie du groupe Alternativa Paris.
Ok, rappelle-moi Alternativa, un petit historique peut-être pour situer à nos auditeurs et auditrices qui connaîtraient un peu moins peut-être.
Alternativa du coup c'est né en 2013. Et au début, c'était vraiment plutôt pour promouvoir les alternatives avec les fameux villages des alternatives dont vous avez peut-être entendu parler. Et c'est né à Bayonne. C'est pour ça que donc, c'est Alternative Basque, Alternativa. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, bah, ça a pris de l'ampleur. Et c'est vraiment à partir de 2015 où il y a eu plutôt une partie de désobéissance civile qui est venue se rajouter à ce mouvement-là avec la COP21 et les accords de Paris. Et c'est à ce moment-là où on avait traditionnellement, on dit qu'on marchait sur les deux jambes, à la fois la jambe des alternatives, promouvoir les alternatives, et de l'autre côté, désobéir pour faire avancer les questions climatiques et écologiques sur le devant politique. Okay. Et aujourd'hui, bah, c'est vraiment entremêlé à la fois promouvoir les alternatives et lutter contre le système qui nous oppresse.
Ok, donc c'est intéressant parce que on voit déjà une évolution d'Alternativa qui... au début, promouvait pas explicitement les actions de désobéissance civile, mais plus des alternatives. Moi, je suis très intéressé et curieux de voir comment ça va évoluer par la suite, mais on en reparlera. On va peut-être revenir en détail sur le récit de l'action, qui a rendu un peu les gens curieux autour. Ça fait pas mal couler d'encre dans la presse. Mais peut-être qu'avant ça, ça te dirait de nous parler de ton parcours un peu.
Ouais, tout à fait. Du coup, moi, je viens de Bourgogne, d'un mini-village de 50 habitants, donc bien loin de la capitale parisienne. Et donc, pendant mes études, j'ai fait des études de bio, et c'est vraiment quand je suis arrivé sur Paris où je me suis politisé et je me suis intéressé à toutes les questions écologiques et comment les rendre politiques.
Ok, et dans tes études, par contre, c'était pas forcément un sujet?
Pas spécialement, non. Ok. Pas vraiment.
Pourtant, on pourrait se dire en bio...
Ouais, mais justement, c'est de la bio scientifique et pas de la bio politique.
Ah,
donc,
la
c'est assez différent.
C'est quoi la différence entre la bioscientifique et la...
Bah, on va plutôt, par exemple, j'ai fait un parcours surtout écologie. Ça va être l'étude des interactions entre les êtres vivants, la chaîne alimentaire, les agro-systèmes, tout ce genre de choses-là. Mais on n'évoque jamais dans les parcours scolaires la question politique de l'écologie ou des agro-systèmes.
Donc, si je résume, un parcours en biologie scientifique n'est pas politique, ou en tout cas pas ne se veut pas politiser. Ça, c'est intéressant, ça. On pourrait en reparler peut-être plus tard. Pardon, je t'ai coupé, du coup.
Pas de problème. Et du coup, c'est en arrivant sur Paris où je me suis intéressé à ces questions-là. Et en fait, un peu par hasard, j'ai fait une formation aux actions de désobéissance civile non violente, donc avec Alternative à Paris. Et quelques jours après, je me retrouvais sur le terrain à participer à ma première action de désobéissance civile non violente. Et c'est là où ça a vraiment fait sens pour moi. Je me suis vraiment senti à ma place et c'est comme ça que j'ai rejoint le mouvement. Et par la suite, où je me suis intégré de plus en plus et où je fais maintenant pleinement partie du mouvement.
Ok, moi je pense que c'est toujours important de bien situer les personnes pour voir de quel espace elles parlent. Donc une politisation qui est advenue de ta part au contact d'Alternativa. De quoi on voulait parler avec toi? Oui, on va parler du coup de l'AG du blocage de Total, donc qui s'est déroulé il y a une vingtaine de jours, c'était le 26 mai dernier, devant la somptueuse salle Playel du Faubourg Saint-Honoré. C'est sympa pour faire une AG, moi j'aimerais bien aller là-bas pour faire mes AG d'assaut. Donc on parle donc, si j'ai bien tout suivi, d'une centaine de militants, parce que j'ai regardé un peu les images, moi j'y étais pas. Donc une centaine de militantes coordonnées à travers 8 associations, donc Alternativa, ANVCOP21, les Amis de la Terre, donc qui ont quand même l'habitude de travailler ensemble, mais aussi Extinction Rébellion et sa branche scientifique en rébellion qui devient de plus en plus indépendante, et des acteurs plus, on va dire, classiques des mouvements, du mouvement écolo comme Greenpeace, mais aussi Attaque France, qui est quand même un héritier des mouvements altermondialistes. Donc est-ce que j'oublie personne dans cette petite liste ?
C'est tout à fait ça.
Ok. Je suppose qu'il y avait aussi pas mal de journalistes indépendants.
Tout à fait. Oui, il y avait beaucoup de médias sur place, les médias un peu classiques, reporters, vers le média, et ensuite beaucoup de personnes aussi indépendantes pour médiatiser et visibiliser ce qui se passait ce jour-là. Oui.
Ok. Donc une centaine de militants, mais aussi pas mal de coordination avec des journalistes, des associations. Ça fait un sacré travail de coordination, donc bravo. mais avant d'aller plus loin, j'ai quand même envie de poser une question un peu naïve. Pourquoi Total ?
Pourquoi Total et pourquoi l'Assemblée Générale ?
Oui.
Effectivement. En fait, je pense que vous le savez très bien, mais Total Energy, et notamment via son Assemblée Générale, allait reconduire sa stratégie hyper climaticide et qui met en danger à la fois des écosystèmes et le vivant dans sa globalité. Total Energy, c'est la troisième pétrolière au niveau mondial et aussi la première au niveau européenne des pétrolières, énergie et gazière à avoir un impact négatif sur le climat, notamment via les extractions de pétrole. Et je pense que vous avez entendu parler des projets, notamment ICOP en Ouganda ou encore Mozambique LNG. Et tous ces projets-là, en fait, c'est clairement des bombes climaticides qui mettent en danger des écosystèmes et le vivant dans sa globalité et des sociétés, des populations également.
Ouais, je pense que tu pourrais dire deux mots sur le projet ICOP pour les auditeurs et auditrices qui...
Ouais, carrément. Le projet ICOP, donc c'est, je pense, peut-être le plus médiatisé à l'heure actuelle. Mm-hmm. En fait, c'est un projet d'un oléoduc chauffé. C'est le plus gros projet d'oléoduc chauffé qui va faire 1445 kilomètres. Mm-hmm. Même moi, j'ai du mal à imaginer ce que ça représente concrètement, 1445 kilomètres. Et qui va traverser plusieurs pays, et donc ça va nécessiter des déplacements des populations, évidemment qui vont pas être forcément relogés. Ça passe par des réserves naturelles, ça va dégrader ces écosystèmes. Il y a déjà à l'heure actuelle des eaux potables qui vont être dégradées, et donc ça va appauvrir certaines populations dans ces pays-là.
Ok. Et du coup, il y a une campagne d'Alternativa contre spécifiquement ce projet-là, ou c'est plus général contre Total ?
Nous, du coup, Alternativa Paris, on est plutôt un mouvement citoyen de mobilisation, et donc là, c'était vraiment contre Total Energy dans sa globalité. Et ensuite, il y a toute une coalition Stop ICOP qui, elle, est vraiment sur le sujet ICOP.
D'accord, dont Alternativa fait partie.
Dont Alternativa fait partie.
Ok, parce que c'est vrai que moi, j'avais eu vent de plusieurs actions contre le projet ICOP qui se sont déroulées notamment le mois dernier, que ce soit des manifestations violentes, des sittings, des actions d'artivistes aussi. Il y a eu quelque chose d'assez sympa qui s'est passé sur le projet WICOP, qui est un projet parodique d'oléoduc qui passerait à travers les grandes îles de France, notamment sous la cathédrale de Lyon. Ça a beaucoup inquiété les Lyonnais de voir des traces de chantier en prévision. Évidemment, c'était un canular, mais ça a fait un petit peu réagir la presse. Mais donc, total, une cible très clairement identifiée. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes antagonistes qui te diraient, mais en fait, total, leur boulot, ben, c'est de raffiner du pétrole, et ensuite, ils le vendent aux consommateurs, donc c'est la responsabilité, on va dire, peut-être des consommateurs d'utiliser ou non du pétrole.
Ouais, effectivement, juste pour revenir sur Total, effectivement, c'est une campagne qui est menée depuis plusieurs mois et même plusieurs années. Mm-hmm. L'année dernière, on avait déjà bloqué l'Assemblée Générale de Total Energy. Cette année, on a aussi perturbé les assemblées générales en fait de leurs principaux financeurs, les banques, à savoir BNP Paribas. Et qu'est-ce que je répondrais à ces personnes? Ben, je pense que en fait la question c'est plus c'est pas une responsabilité individuelle de savoir est-ce qu'on doit ou non consommer de l'essence pour conduire nos voitures, mais plus une question à porter à l'échelle collective. Et c'est comment le gouvernement devrait ou non contraindre ces multinationales climaticides à agir pour le climat. Et si on s'appuie en fait sur les rapports du GIEC notamment et des scientifiques avec Scientific in Rebellion, on voit bien que ces personnes-là disent très clairement que pour limiter le réchauffement climatique et le dérèglement climatique plutôt, on est obligé de sortir des énergies fossiles et de façon très rapide, voire immédiate. Et à l'inverse, Total Energy prévoit au moins jusqu'en 2030 de nouvelles extractions pétrolières et gazières. Donc ça va vraiment à l'encontre des recommandations des scientifiques.
D'accord. Mais du coup, si je simplifie la position d'Alternatiba sur cette question-là, c'est que c'est au gouvernement de restreindre et de légiférer les agissements de Total, c'est ça?
Tout à fait. C'est à la fois à Total Energy de prendre conscience du phénomène et de se conscientiser aussi et de stopper l'investissement dans les énergies fossiles et gazières, mais aussi en fait au gouvernement de mettre en place des lois et d'obliger en fait ces majeures pétrolières et gazières climaticides et de les contraindre à aller dans le sens, dans le bon sens pour limiter l'augmentation de l'effet de serre notamment.
D'accord, mais dans ces cas-là, j'ai envie de poser peut-être une question un petit peu provocante. Mais on va dire que notre gouvernement actuel et les précédents ont quand même fait un peu l'état de leur position vis-à-vis des gros acteurs de l'industrie. Mm-hmm. Est-ce que, entre guillemets, c'est réaliste d'attendre de leur part qu'ils contraignent des entreprises comme Total?
Je ne sais pas si c'est réaliste ou non, mais c'est dans leur devoir en tant que gouvernement. Le gouvernement est censé pour protéger et... il est censé être là pour gouverner les sociétés et aller dans le bon sens et pour le bien commun. Et en fait, en ne contraignant pas ces majeures pétrolières et gazières, on voit bien qu'elles ne vont pas dans le bon sens et que c'est un peu leur rôle. Donc peut-être qu'elles ne le font pas, mais c'est vraiment leur rôle.
Ok. Je posais la question parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément des perspectives toujours pro-étatistes ou réformistes. Mais je trouvais ça intéressant de voir comment est-ce que tu répondais à ça. Oui, peut-être un mot en plus sur Total. Est-ce que tu as entendu ou tu as eu des infos sur les campagnes de désinformation de Total, qui sont pas récentes, qui font écho à des choses qui sont passées aux États-Unis? C'est des choses qui sont portées à la connaissance d'Alternatiba ou qui sont...
Il y a à la fois les campagnes de désinformation, il y a aussi tout le greenwashing clairement apparent de Total Energy. On voit là, dans leur assemblée générale, ils voulaient voter leur fameux plan climat, qui n'a de climat que le nom, parce qu'en fait, ça allait promouvoir de nouvelles extractions pétrolières et gazières, donc c'est de la désinformation pour essayer de se faire passer pour les gentils et qui vont dans le bon sens, mais en fait, quand on s'intéresse vraiment au projet et qu'on creuse, c'est vraiment à l'inverse et ça promouvoit des bombes climatiques.
Ok. On ne peut pas leur reprocher d'être incohérent dans le fait de défendre leur activité, quelque part.
Effectivement, ils défendent leur super profit et le super profit de leurs actionnaires.
Ok, bon du coup, ça fait une cible très clairement identifiée. Hein, je voulais peut-être un peu enfoncer le clou, mais au moins, on voit bien pourquoi Total est choisi. Mais ça reste, je pense, un point crucial quand on organise une action que je vais qualifier d'offensive, c'est qu'il faut une cible clairement identifiée. Donc, je pense que c'est un bon point de départ. Je vous propose un petit interlude musical pour rappeler que la raison d'être, c'est quand même avant tout de garder plein le réservoir de nos cages en métal.
Par les cages en métal, trop de bruit. écrasés, hérissons écrasés, écrasés par les cages en métal. Trop de gens traumatisés,
de gens traumatisés,
traumatisés.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu ni maître ni publicité. Vous êtes toujours avec nous sur Délibéré et surtout avec un porte-parole d'Alternativa, Antoine, qui va nous parler peut-être de l'AG total et de la perturbation à laquelle il a participé.
Ok. Et si tu nous décrivais un petit peu maintenant le déroulé de cette journée, on est le 26, réveil aux aurores pour les participants et les participantes, comment ça se passe ?
Effectivement, donc c'était le 26, c'est même plus qu'un réveil aux aurores, c'était un réveil semi-nocturne pour arriver en fait très tôt sur le lieu de l'action.
Vers quelle heure du coup
À titre personnel, je me suis levé à 4h du matin.
Ok, ouais, ça fixe un ordre d'idée, c'est concret. Ça.
C'est ça, on se rend un peu compte de qu'est-ce que ça peut impliquer. Et peut-être avant ça, juste rappeler que c'était une action qui s'est passée ce jour-là, mais qui a nécessité en fait des mois d'organisation, de coordination, de formation des bénévoles, puisqu'il y avait plus de 700 personnes présentes sur le terrain ce jour-là. Donc, ce qui est en fait une action de masse. Et donc concrètement, donc on est arrivé sur le terrain à partir aux alentours de 6h du matin. Pour pouvoir bloquer, le but était de bloquer l'Assemblée Générale de Total Energy avec différentes équipes et différents dispositifs. Donc on avait effectivement vu que la salle Pleyel en fait possède des portes sur des rues aussi latérales, et donc si on veut bloquer un bâtiment, il faut bloquer l'ensemble des entrées, sinon si vous laissez une porte ouverte, ils vont pouvoir rentrer à un endroit. Et en fait on a fait le constat dès qu'on est arrivé, il y avait des forces de l'ordre partout, avec un très grand nombre de forces de l'ordre.
À 6h du matin, du coup ?
À 6h du matin, ouais, effectivement. Okay. Donc il y avait très certainement des informations qui avaient été comprises quelque part par les forces de l'ordre pour nous attendre dès cette heure-là. Ensuite, il faut peut-être rappeler qu'il y a un mois auparavant, on avait fait une tribune pour annoncer qu'on allait bloquer l'Assemblée Générale de Total Energy. Mmh. Donc de fait, c'était un événement public et tout le monde était au courant qu'on allait venir ce jour-là. Et donc, dès notre arrivée, ça a été très violent, parce que les forces de l'ordre ont vraiment fait usage de violence très rapidement, avec des coups de matraque, des coups de bouclier, des gaz lacrymogènes.
D'accord, donc il y a eu des coups envers les militants qui se revendiquent de la non-violence.
Avec des militants, effectivement, qui étaient 100% dans le consensus non-violent, en tout cas celui défendu par Alternative à Paris. Et on a malgré tout réussi à pouvoir s'installer et à bloquer et à perturber cette assemblée générale jusqu'à tout le temps de l'assemblée générale. Il y a eu à plusieurs moments des hauts et des bas avec les forces de l'ordre. Et notamment moi sur l'action, j'étais un des interlocuteurs privilégiés pour les forces de l'ordre. Parce qu'effectivement, on identifie dans nos groupes une ou deux personnes qui va aller dialoguer avec les forces de l'ordre pour éviter aussi simplement que tout le monde puisse dialoguer avec LE et que ça rende le discours très confus.
Et ça fonctionne, désolé de te couper,
non,
ça fonctionne ces dialogues entre militants écologistes et les flics, enfin...
Ça dépend. Des fois, ça fonctionne très bien. Ça dépend du type d'action. Je me souviens, en décembre dernier, on avait bloqué le ministère de l'économie avec Dernière Rénovation. Et pour le coup, les forces de l'ordre, on avait vraiment aussi de leur côté une interlocutrice et on avait pu dialoguer. En revanche, je ne vous cache pas que là, lors de l'Assemblée Générale de Total, le contact et la prise de contact étaient très compliqués, voire peu possible.
Ça dépend du contexte aussi, parce que là, c'est des gros actionnaires, donc il faut les protéger à tout prix.
Effectivement, je pense que ça dépend du contexte et ça dépend aussi de comment se place le gouvernement par rapport à ce contexte-là. Et là, clairement, le but affiché du gouvernement était de permettre aux actionnaires de pouvoir rentrer. Donc ça renforce encore l'idée de la complicité entre le gouvernement et ces multinationales climaticides.
Mais c'est vrai que moi, je t'avoue, quand j'ai les mots « contact » et « police » dans la même phrase, quand il s'agit d'une action militante, en général, je ne pense pas à une discussion cordiale autour d'une tasse de thé. Je pense que le contact policier pour beaucoup de militants et militantes, il relève plus d'une violence subie que d'un échange. Du coup, moi, ça me laisse un peu, ça me fait me poser des questions, notamment celui des possibles privilèges qui sont associés au fait de pouvoir ou non discuter avec un policier. Je ne sais pas ce que tu en penses ou si c'est une question que tu t'es posée.
Je pense que le rôle essentiel de cette personne-là, c'est de garantir aussi le bien-être et, dans une certaine mesure, de l'ensemble des militants et des militantes, en fait, arrivant à avoir quelques informations de la police de qu'est-ce qui va se passer. Concrètement, il y a aussi toute une phase de négociation de, si on fait ça, comment vous allez répondre? Et à l'inverse, une fois qu'ils nous ont identifiés, eux vont aussi venir vers nous en nous disant, là, vous allez bloquer cette rue-là. Si vous bloquez cette rue-là, vu que vous bloquez tous les accès, on va de fait faire usage de la force pour vous... retirer de cette rue-là et laisser un accès périn pour les actionnaires. Donc ça permet vraiment quand même de pouvoir négocier certaines choses et de faire avancer l'action le plus longtemps possible et de gagner du temps pour arriver à mener à bien nos actions.
Je ne remets pas en cause à quoi ça peut être utile. Par contre, la question que j'avais posée, c'était vraiment sur le fait que c'est un rôle qui peut fonctionner dans certains cadres et pas dans d'autres, notamment en fonction de privilèges blancs, je pense par exemple à ça, en fonction de si on est étiqueté mouvement non violent ou éco-terroriste, parce que je pense qu'il y aura des choses différentes. Et c'est pour ça que je te posais la question, en fait. Enfin, à Alternatiba, est-ce qu'il y a des questionnements là-dessus sur quel privilège ça implique ou non?
Ouais, complètement. Effectivement, je pense qu'on est perçu... Je pense que maintenant, le nom Alternative à Paris, en tout cas à Paris, quand on va vers les forces de l'ordre, ils savent de quoi il s'agit et ils savent que ça va être une action de désobéissance civile non violente. Et donc, ça fait sens. Et pour la question des privilèges, effectivement, on essaye aussi que ça soit pas toujours un homme blanc qui prenne la parole. En l'occurrence, là, j'étais en binôme, donc avec une femme. Et c'est aussi hyper compliqué, cette position en tant que femme, de dialoguer avec les forces de l'ordre, avec la misogynie qui va avec ces mouvements-là. Et c'est plus en fait une question de est-ce qu'on se sent pouvoir aller dialoguer avec les forces de l'ordre, parce que c'est pas quelque chose de simple, et c'est effectivement des fois plus simple quand on est un homme blanc de pouvoir aller dialoguer avec eux, parce que ils vont un minimum nous considérer, alors que si ça va être une femme, il va y avoir des remarques misogynes, si ça va être une personne racisée, il peut y avoir des remarques racistes, etc. Ouais.
Ok. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est important de le prendre en compte, de se dire, en fait, je le fais avec mon positionnement, mes privilèges, et du coup, je les utilise dans ce cadre-là. Toi, personnellement, est-ce que tu as subi de la violence policière? Si tu es prêt à en parler, je veux pas...
Lors de cette action-là, à proprement parler, moi, physiquement, peu, parce qu'en étant ce fameux interlocuteur de la police, j'ai un peu la chance d'être... un peu à l'écart par rapport au cœur de l'action même, puisqu'il faut que je puisse être joignable à tout moment par les forces de l'ordre. Mais par contre, j'ai été physiquement, visuellement, j'ai vu toutes ces violences policières qui sont passées en fait à quelques mètres de moi, et j'ai vraiment vécu, non pas dans ma chair, mais à travers l'ensemble du collectif, ces violences policières, oui.
Ok. Je pense qu'on va en reparler, parce que c'est quand même un sujet, en plus tu voulais parler du soin militant. Mais j'avais encore des questions éminemment pratiques, parce que j'ai vu que notamment sur place, je ne sais pas s'il y avait des travaux, ou en tout cas il y avait des barricades. Est-ce que c'est des travaux qui étaient prévus, ou c'était vraiment un agencement qui a été fait par la police et les forces de l'ordre?
Effectivement, on est arrivé sur place avec donc un nombre incalculable de forces de l'ordre et des travaux surprises qui n'étaient pas là la veille et qui n'étaient plus là le lendemain.
D'accord.
Donc on voit très bien que ils utilisent du matériel, et donc parce que en fait, peut-être pour rappel, l'année dernière, on n'avait pas annoncé qu'on allait bloquer l'Assemblée générale de Total, et il y avait des simples barrières classiques qu'on avait pu franchir assez aisément pour aller bloquer la salle Pleyel. Et donc cette année, ben, c'était un dispositif matériel bien plus conséquent. Il y avait des brigades spécialisées aussi lors de cette assemblée générale-là. Donc il y avait vraiment un dispositif disproportionné des forces de l'ordre, ouais, effectivement.
D'accord. Je pense que ça, c'est aussi intéressant à noter parce que cette info, je ne l'ai pas vue beaucoup dans la presse. Et le fait qu'on aille affréter du matériel de chantier pour un chantier factice, ça demande quand même des moyens considérables. Est-ce qu'on sait si c'est plutôt la salle Playel, plutôt Total, plutôt les forces de l'ordre? Vous avez peut-être des infos à ce niveau-là?
Je pense pas qu'on ait des infos très claires, mais je pense que ça montre effectivement, bah, encore une fois, la complicité en fait entre ces différents acteurs, à savoir donc la salle Playel, la société de vigile, à savoir les forces de l'ordre et le gouvernement. Si tout ça a été rendu possible, c'est qu'il y a des interactions entre ces différentes personnes et bien évidemment Total Energy. Je pense que si on avait bloqué peut-être une autre multinationale beaucoup moins climaticide, avec beaucoup moins de super profits, le dispositif matériel aurait été bien moins conséquent.
Ok. Il y a eu des interpellations, peut-être?
Yes, au total, on a eu 5 interpellations.
Ok.
Dont une personne qui est ressortie assez rapidement de garde à vue. Les 4 autres ont passé 48 heures en garde à vue. Et on a actuellement, du coup, 2 personnes qui vont aller en procès pour violence envers des personnes de l'ordre, dépositaires de l'ordre public, des forces de l'ordre. Et donc les procès, ça va être en automne. Donc effectivement, en fait, c'est des actions qui vont perdurer en fait dans le temps, parce qu'on va effectivement accompagner ces personnes collectivement pour pouvoir remporter ces procès et au moins dans une première partie leur apporter un soutien psychologique parce que c'est pas forcément évident.
Ok. Effectivement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quand même 2 personnes qui sortent de garde à vue avec un chef d'inculpation. Quoi. Mm-hmm. Tout ça, ça a dû pas mal secouer les participants. Tu dis qu'il y en avait 700 à peu près?
Ouais, il y avait à peu près 700 personnes. Et juste pour revenir sur l'histoire des procès, il y a aussi le fait que, en fait, vu qu'on a subi toutes ces violences-là et qu'on ne veut pas les laisser impunis, de notre côté, on a déposé 11 plaintes, à savoir contre certains actionnaires, contre les forces de l'ordre et contre la société de vigile.
Pourquoi contre certains actionnaires?
Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais il y avait vraiment eu des violences physiques. Des personnes nous ont clairement marché dessus pour franchir des gens qui faisaient une chenille. Donc la chenille, c'est juste quand on s'accroche les uns les autres assis pour bloquer et perturber un accès. Et donc ces personnes nous ont marché dessus avec l'aide des forces policières. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une photo où il y a clairement une personne qui menace de frapper physiquement par un coup de poing un activiste non violent. Donc il y avait vraiment des menaces physiques et verbales. Ben, je vous passe toutes les violences verbales qu'on a reçues, les insultes, tout ce genre de choses. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé aussi de porter plainte contre certains actionnaires.
D'accord. Et donc, contre certains actionnaires, vous parliez de la police aussi? Vous vouliez porter plainte
On a déposé des plaintes aussi contre les forces de l'ordre et contre les sociétés de vigile, parce qu'en fait, c'est l'ensemble de ces personnes-là qui nous ont fait subir des violences, à savoir à différents niveaux. Et notamment, on a des avocates et des avocats qui ont écrit une lettre à l'IGPN et au préfet et qui est restée de « la police est dans ses droits et a répondu proportionnellement à ce que vous avez fait ».
Ils ont clairement été envoyés par l'État, donc à partir de là... Vous ne pouvez pas vous attendre à grand-chose de la plainte.
C'est vrai que clairement, les statistiques des condamnations des policiers par l'IGPN étant ce qu'elles sont, je ne sais pas dans quelle optique vous avez porté plainte. Ça peut être un geste symbolique ou une manière de demander rétribution.
C'est un peu les deux. Et c'est aussi pour montrer qu'il y a de l'intimidation policière avec différents moyens, mais on ne se laissera pas faire. Et s'il faut aller porter plainte, quand bien même possiblement ça n'aboutira pas, on ira porter plainte, on se mobilisera et on donnera à voir aussi que ces violences existent et qu'il faut s'indigner contre tout ça.
Ouais. Rappelons quand même que porter plainte, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours facile pour tout le monde. On parlait de privilège blanc tout à l'heure, à nouveau c'est quelque chose qui peut jouer. Des anecdotes de policiers qui refusent de prendre des plaintes dans plein de situations de manière complètement illégale, je pense qu'on en a pas mal. Donc tant mieux si vous pouvez porter plainte, je me sentais le besoin de rappeler que c'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, et malheureusement. Quoi.
Ouais, et c'est pas accessible à tout le monde, et c'est aussi pour ça qu'on travaille très en lien avec des avocats et des avocates pour permettre que ces plaintes puissent être, dans un premier temps, déposées par n'importe qui, et ensuite potentiellement aboutir. Il y a vraiment on est soutenu par des avocats et des avocates pour mener tout ça.
Ok. Eh bien écoute, si t'es OK avec ça, moi je serais assez intéressé de discuter du consensus d'action, Parce que bon, c'est une assez vieille histoire et des débats militants assez classiques sur la question de la non-violence ou de la violence ou en fait d'autres choix tactiques et de choix de mots. Par exemple, un exemple concret, les militants ont fait en sorte d'arriver, de passer les barrages policiers pour faire un blocage et se sont mis ensuite en chenille. Donc, tu disais que justement, il y a eu de la violence de la part des actionnaires. Moi, j'ai eu écho d'une main qui aurait été écrasée par un actionnaire jusqu'à la fracture. Donc, je pense, est-ce qu'il y a eu des questionnements de la part de l'organisation sur ce mode d'action-là ? Parce que je me dis, enfin, c'est moi qui fais une supposition, peut-être que si les personnes avaient été plus en posture d'autodéfense et pas en chenille passive, elles auraient été moins vulnérables.
Mmh. Oui, effectivement, donc Alternatiba Paris et Alternatiba généralement promeut les actions des obéissances civiles non violentes. Et peut-être juste rappeler de pourquoi on fait ce choix-là, parce que ça permet promouvoir une alternative et le moyen par lequel on lutte, c'est de la société dans laquelle on veut vivre. On fait préfigurer une société non violente par nos actions.
Mais est-ce que c'est pas confondre le moyen et la fin ?
Ben justement, je pense que les deux sont intimement liés. Et on a Alternative à Paris la vision de on n'est pas dans le la fin justifie les moyens. Mmh. On est là de les moyens qu'on utilise pour lutter. En fait, c'est déjà la société que l'on veut voir advenir. Ça va un peu, c'est aussi d'accord. Dans tous les récits, tout ça.
Oui, mais dans la situation actuelle où on est vraiment clairement dans une urgence climatique, pensez vraiment que... Enfin, moi, je suis adepte de la non-violence, très pacifiste. Mais est-ce que là, vraiment, clairement, mettons tout ça de côté, tu penses réellement que c'est mêler des actions pour la planète avec de la désobéissance civile enfin, est-ce que c'est assez... ça adapte... Comment expliquer cela ? Est-ce que c'est très pertinent pour le contexte et l'urgence qui est actuellement présente ? Enfin...
Je pense que la non-violence, c'est déjà pour nous très différent du pacifisme. Ce n'est pas l'absence de conflit, c'est au contraire créer un rapport de force, créer un conflit.
D'accord.
Et je me dis, en fait, vu l'importance médiatique qui a été donnée à cette action-là du blocage de l'Assemblée Générale de Total, il y a eu des prises de parole, notamment il y a Elisabeth Borne, malgré tout, qui nous a cités et qui a dit que nous étions dans notre rôle d'alerter pour la situation dramatique du climat. Donc je pense que politiquement, c'est super intéressant. On atteint des objectifs et on voit bien que ces actions de désobéissance civile non violente permettent de faire avancer les choses. Ouais.
De quelle façon ? Parce que, enfin...
On a remporté des victoires, on a fait des actions notamment, je pense, à l'aéroport de Roissy, où on avait bloqué l'aéroport de Roissy, on était rentré sur le tarmac. Ça nous a permis d'avoir des victoires. On a aussi des victoires plus concrètes au niveau local, en aidant des collectifs locaux. Donc je pense que ça fait avancer les choses et ça permet surtout et aussi au plus grand nombre de se reconnaître dans ces actions-là. C'est un peu difficile de ne pas se reconnaître dans une action de désobéissance civile. On est à visage découvert, on assume pleinement nos actions. Quand on va en action, on a nos cartes d'identité. On le fait en fait en tant que citoyen et citoyenne et on utilise notre droit et notre devoir de citoyen et citoyenne de s'engager pour faire avancer la société.
C'est vrai que je pense que cette action de blocage de l'AG, elle a eu des retombées médiatiques et c'était un sacré boulot. Et que ce choix du consensus d'action, au départ, il peut se défendre sans aucun souci. En revanche, effectivement, le fait que tous puissent se reconnaître dedans, moi, j'ai aucun problème avec des personnes qui disent « Nous, c'est notre mode d'action, on fait comme ça. » Ensuite, à nouveau, je pense que c'est des choses qui sont pas forcément universels, le fait d'être à visage découvert notamment ou quoi, d'autres personnes vont avoir envie ou le besoin de se protéger vis-à-vis de ça, et ça peut être un risque supplémentaire qui dissuaderait certaines personnes de venir en mode là en fait je peux pas donner mon nom, je peux pas être identifié par les services de police comme faisant partie de ça. Ensuite par contre effectivement c'est quelque chose qui est plus facile à médiatiser et à garder de manière légal entre guillemets parce que dans le cadre de la c'est vrai que l'étiquette quelque part de la non-violence protège d'une certaine façon les militants mais c'est vrai que je posais la question parce que dans d'autres cas elle les protège pas et l'idée n'est pas du tout de remettre en question l'identité l'ADN d'Alternativa qui est forgée autour de cette notion de non-violence.
En fait, en lien avec ce que tu dis, moi, ce qui me pose question aussi, c'est de me dire, quand on revendique son identité ouvertement pendant une action, qu'elle soit non violente ou pas, en fait, il y a un risque quand même, malgré tout. C'est-à-dire que la garde à vue, elle peut se conclure par un futur procès, comme vous en avez déjà sur les bras. Mais pour une personne, notamment, qui a une situation peut-être un peu précaire, qui a des papiers qui doivent être renouvelés chaque année, etc., c'est aussi un empêchement, en fait, de participer à la lutte. Parce que quand on demande chaque année un titre de séjour pour rester en France, et on a absolument le droit de le faire, et c'est tout à fait une situation régulière, mais il n'empêche qu'elle est précaire, est-ce que ça n'empêche pas des gens aussi de vous rejoindre ?
Effectivement, je pense que en fait, la question de l'inclusivité de ces actions non violentes, elle est hyper importante. Et on a aussi beaucoup de réflexions, vraiment, on en parlait encore hier, comment on fait vivre cette inclusivité au sein des actions de désobéissance civile non violente. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Dans un premier temps, il y a le fait que on propose un consensus. Les gens qui s'y reconnaissent peuvent effectivement y participer. Et ensuite, il y a aussi tout un panel de possibilités de s'impliquer sur l'action, notamment là pour les personnes qui peuvent être un peu plus au niveau des papiers où ça peut être un peu plus compliqué d'aller en garde à vue. Et ben, il y a tout ce qu'on nous on appelle les bases arrière soins, les bases arrière bien-être militant. Bon, certes, c'est peut-être pas à titre personnel la chose qu'on a envie de vivre quand on va dans une action de désobéissance civile non violente, mais peut-être se rappeler que c'est des actions collectives et qu'on fait ça collectivement, et peu importe en fait le rôle concret que l'on a le jour J, le but c'est de gagner collectivement ces différentes étapes. Donc je pense qu'il y a des manières de s'impliquer qui sont pas directement sur le terrain, et de fait où c'est des personnes qui peuvent avoir des risques juridiques, et donc c'est aussi intéressant de rappeler que ça peut être aussi les personnes les plus privilégiées qui vont choisir sciemment d'aller s'impliquer dans ces combats-là.
Mais dans ce cas, on arrive quand même dans un mouvement, même si c'est censé être un mouvement collectif, ou justement où Iris parlait du fait que tout le monde ne peut pas s'impliquer pour des raisons diverses, on arrive quand même dans un mouvement où il y a certaines personnes qui vont quand même être invisibilisées d'une certaine façon ou d'une autre. Enfin, et on verra toujours en tête d'affiche les mêmes personnes, même si c'est le collectif et la masse qui est censée compter, sauf que cette masse visible sera toujours les mêmes personnes capables de se montrer aux médias, au monde. Enfin, c'est quand même, c'est juste ça.
Oui, mais ça me fait penser à la notion en fait d'écologie populaire, qui est l'écologie qu'on revendique. Et ça me fait très, très vite penser à l'action dont je parlais avec Dernière Rénovation en décembre, où en fait, toutes les prises de parole, c'était par les premiers et les premières concernées. Et donc, juste pour un mot sur cette action, c'était pour, dans notre campagne Vivre et pour l'insalubrité des logements. Et en fait, cette fois-ci, c'était pas les porte-paroles classiques, on va dire, d'Alternativa Paris qui ont pris la parole, mais c'est vraiment les personnes qui vivaient dans ces logements-là, et donc parfois avec des situations, des papiers plus ou moins régularisés, qui ont pu prendre la parole. Et en fait, le fait aussi de s'inscrire dans ces consensus, dans nos consensus d'action, ça les protège quelque part, parce que elles font partie du collectif. Et quand bien même il y aura potentiellement des procès, le collectif sera aussi là pour les accompagner dans toutes ces démarches.
Okay. Tu parlais d'inclusivité tout à l'heure. Moi, c'est vrai que je préfère le terme alliance. Ensuite, je sais que c'est des alliances qui sont réfléchies à Alternativa. Je pense notamment à tout ce qui est fait du côté de Verdragon, la maison de l'écologie populaire, et aussi des actions coordonnées avec d'autres mouvements. Donc, l'idée, effectivement, Alternativa a son consensus d'action qui intègre un certain public, et c'est tout à fait OK. La question que je me pose, c'est plus comment est-ce qu'on va créer des alliances et se coordonner avec d'autres personnes qui ont des modes d'action qui peuvent être très différents. Mais c'est aussi pour ça qu'on posait ces questions, pour voir bien les limites et la situation de l'Alternativa Paris. Peut-être une petite pause musicale avant d'aller plus loin, pour introduire un groupe qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Sages comme des Sauvages, avec sa musique Paris défend.
Comme à l'agonie, te voilà seul à douter devant tes amis. Tu n'as pas su retrouver l'annonce élégante qui garnirait ton CV de boulot navrant. voilà bien intégré, le pauvre ou le sombre. Te voilà bien résigné dans ton bel habit. Paris défend ses intérêts. Paris défend ses enfants par milliers. Paris étend son rayonnement. Mais de l'autre côté, serrer les dents n'est pas assez.
Écoutez Radio Liberté au 89.4 et c'est l'heure de votre émission préférée, Délibérée.
Petit retour sur l'actualité récente, parce que malheureusement le temps ne s'est pas arrêté après l'AG. Bon, les climatologues s'en désolent. Lundi 5 juin, une opération coordonnée donc par la sous-direction antiterroriste, la SDAT, a ciblé une quinzaine de militants et militantes écologistes qui auraient participé à une action de désobéissance et à une action de sabotage, donc sur une raffinerie du groupe Lafarge à Bouc-Bel-Air, dans les Bouches-du-Rhône. L'action était en décembre dernier et elle s'est traduite donc, au niveau de ces arrestations, donc il y a eu quelques sabotages de machines. Et donc, on est à peu près 6 mois plus tard, c'est vraiment une véritable opération commando qui s'est déroulée, pendant lequel on a eu des policiers qui étaient en treillis et en cagoule, qui sont venus au domicile des gens, dans les pavillons, dans les colocations, qui sont venus arrêter les militantes pour les envoyer en garde à vue. Une garde à vue donc qui a duré 82 heures, parce qu'effectivement, quand on est étiqueté éco-terroriste par un certain Darmanin, ça devient tout à fait légal de priver les gens de liberté pendant 96 heures. Donc perquisition, intimidation, il y a... Les gardés à vue ont réussi à garder la ligne de je n'ai rien à déclarer. C'est quand même des procédés qui sont assez inquiétants. On voit que les soulèvements de la terre sont de plus en plus dans le collimateur du gouvernement et qu'il y a vraiment une radicalisation en fait du pouvoir contre les mouvements, les militants écologistes. C'est d'ailleurs une observation qui fait un petit peu écho à un avertissement que Assa Traoré avait donné il y a quelques années au mouvement climat, quand on lui avait posé la question de quel conseil elle avait pour les militants, de leur dire il ferait bien de s'inquiéter rapidement de la question des violences policières, parce que tôt ou tard, c'est eux qui y seront confrontés. Alors, je pense que c'est une nouvelle que vous avez aussi vu passer à Alternatiba. Comment vous avez accueilli cette nouvelle de votre côté?
Je ne vous cache pas que ça a été dur. Non pas parce que c'est nouveau, en fait, ça existe déjà, et comme tu viens de le souligner, Assa Traoré avait déjà souligné que dans les quartiers populaires, les violences policières existent déjà et depuis un moment, Ce qui est nouveau, c'est que bah, là, ça touche des nouvelles personnes, à savoir le mouvement climat. Mmh. On avait déjà subi des violences policières à travers ben, des amendes, donc une répression financière. Mmh. On a des répressions judiciaires avec de nombreuses personnes en procès. Et là, des perquisitions, presque une quinzaine de personnes avec des perquisitions et aller en garde à vue. Donc c'est inédit. Et ça montre bien la volonté du gouvernement de museler ces activistes climat et le mouvement climat dans sa globalité.
D'accord, je tiens juste à dire que les personnes ont pu sortir, ont pu retrouver leurs proches et leurs familles, donc soutien à elles et eux. On va voir si elles seront rappelées dans les mois qui suivent, auquel cas peut-être qu'il y aura des suites judiciaires.
Du coup, moi je vais revenir sur un point, parce que depuis tout à l'heure on parle du mouvement climat et des modes d'action, et tout ce qui revient à chaque fois, c'est le fait qu'on est tout le temps confronté au système. Tout le temps, les flics, les perquisitions, les arrestations à bout de champ, et même maintenant le thème écoterrorisme, mais c'est quand même grave le problème. Donc les mouvements concrètement écologistes, je pense qu'on est tous là, on est d'accord pour dire qu'on veut tous vivre sur une planète saine, mais vu qu'à chaque fois, c'est des mouvements qui sont tout le temps confrontés au système. Du coup, ça serait pas plus pertinent de faire des coalitions, mais de se rapprocher des orgas politiques, enfin les vrais, quoi.
Penses à quels orgas politiques?
Bon, on va pas faire de la pub pour n'importe quel orga, mais juste de se positionner sur une vraie ligne directrice politique en disant clairement, oui, en fait, on veut militer pour l'écologie, mais ça ne se fera pas sans un réel changement du système. Enfin, c'est pour ça, moi, j'ai commencé à m'intéresser, à me politiser avec justement les questions que je me posais par rapport à la planète. Et je m'étais un peu rapprochée des assos qui militaient et qui étaient là, le zéro déchet, la planète. C'est bien, mais sauf que ça reste tout le temps des modes d'action un peu individualistes où on essaie de te poser, on t'impose un peu une vision des luttes climatiques comme une espèce de truc. Oui, c'est à vous aussi de prendre vos... propre initiative en faisant le tri, en consommant zéro déchet, en allant en fripe. C'est bien beau, mais tout le monde ne peut pas se le permettre déjà. Il y a aussi cette question qui revient souvent. Donc, la question des justices sociales, environnementales. Et il y a en plus, en ce moment, il y a une crise économique qui est immense. Donc, allez demander aux gens de consommer zéro déchet. Et en plus, ce genre de message s'adresse à une certaine partie de la population, pas une majorité. Et dans un mouvement, si on ne peut pas atteindre la majorité, elle ne sert absolument à rien. Enfin, c'est bien beau de vouloir toucher quelques cibles dans certains quartiers, de dire, ouais, consommer zéro déchet, on fait le tri, on va dans des magasins un peu éco-responsables. Enfin, au final, tout ce qu'on fait, c'est de pratiquer une sorte de capitalisme économique, écologiste. Voilà. Donc, pour moi, je soutiens de loin. Je pense que c'est aussi des mouvements qui sont importants. Il faut l'avoir, mais je pense que ça serait quand même bien de se positionner directement et d'avoir un vrai discours politique dans le mouvement écologique et de pas juste aller dénoncer le fait que, ouais, la planète, on peut rien y faire pour la planète sans un réel changement du système et sans prendre en compte toutes les autres inégalités qui englobent le système et notre société actuelle. Les mouvements, du coup, c'est voué à l'échec sans prendre en compte tout cet spectre et dynamisme entre les populations. En plus, déjà là, d'un pays à un autre, c'est pas les... Non, déjà de Paris au sud, c'est pas les mêmes réalités environnementales et c'est pas les mêmes réalités sociales. Et donc, si on part d'une échelle nationale pour aller à une échelle planétaire, les réalités, elles sont pas différentes. Franchement, ce discours, en plus, souvent, comme tu disais, je trouve que c'est un discours un peu très souvent paternaliste des pays européens à parler de l'écologie, de dire, ouais, bah, il faut se soulever, il faut faire des manifs. Mais, par exemple, dans les mouvements, ce genre de mouvements, on ne les retrouve pas en Afrique, par exemple, justement parce que il y a une autre réalité qui est plus matérielle et qui est plus imminente que de se réveiller le matin pour aller militer ou bloquer des actionnaires de Total, parce que les gens ont une autre... des besoins auxquels ils doivent subvenir, du coup, ça passe un peu à la trappe. Pourtant, c'est quand même important de porter un discours en disant, ouais, la planète, on couvre la catastrophe, l'effondrement.
Ouais, je trouve ça hyper intéressant et j'ai envie de réagir sur plein de choses que tu viens de dire. Et notamment, j'ai envie déjà de rappeler le slogan d'Alternative à Paris qui est « Changeons le système, pas le climat ». Donc, qui en fait, de fait, on est là pour changer le système dans sa globalité avec le prisme du climat, parce qu'on pense que c'est à travers la bataille écologique que le système va pouvoir se changer. Mais on est effectivement...
Je pense, désolé de te couper, mais je pense plutôt l'inverse, que c'est avec le prisme du changement du système qu'on pourra changer le climat, aller vers un changement global.
Ouais, je pense qu'en fait, les deux sont hyper liés et qu'il faut faire ensemble, d'où la notion de Alternative à Paris, qui est un mouvement pour une justice climatique et sociale. Et en fait, on ne peut pas juste être une justice climatique ou une justice sociale. Et les deux se font vraiment ensemble. Et peut-être rappeler aussi que... les personnes les plus impactées par le réchauffement climatique et les dérèglements climatiques, ça va être malheureusement les pays du Sud. Et donc, pas la France, concrètement. En tout cas, pas les habitants et habitantes de Paris.
Là, j'ai très chaud, pardon.
Là, il fait très chaud, on est bien d'accord. Mais peut-être que c'est, en fait, nous, à Paris, c'est notre manière de pouvoir aussi porter ces messages et de faire avancer ces débats-là. Et bien évidemment, ce qu'on souhaite, Alternative à Paris, ce n'est pas un parti politique, on est apartisan, mais c'est un mouvement politique, on porte des valeurs politiques et des projets politiques. Et effectivement en s'attaquant au gouvernement et aux multinationales, et justement en ne promouvant pas les petits gestes, ce n'est pas même en réduisant son chauffage que ça va changer quelque chose. C'est vraiment en ciblant et en nommant les responsables, qui sont les gouvernements et les multinationales, que cela peut en fait impacter tout à chacun.
Mais souvent aussi, il y a même, je ne sais plus, c'était quel article ou quel organisme qui militait pour le climat, le discours porté, c'était la décroissance, c'était vraiment trouver d'autres alternatives à l'énergie, tout ça. Mais j'étais là, mais cela va se faire au détriment aussi des pays du Sud, où on va aller chercher le cobalt au Congo, par exemple, pour essayer de trouver... comme dirais-je, une alternative à notre modèle énergétique actuellement. Mais toujours, les solutions à apporter, c'est toujours des solutions qui vont... en plus, souvent, c'est des solutions qui sont portées dans les médias, par les gouvernements, parce que ça les arrange aussi d'aller dans les pays du Sud, essayer de trouver des solutions concrètes, alternatives, au détriment de d'autres peuples. Mais franchement, du coup, ça pose beaucoup de problèmes dans les mouvements écologistes.
Complètement, parce que le capitalisme, le but, c'est la croissance et faire toujours plus de profits. Et donc, effectivement, il faut sortir de ce système-là pour pouvoir, effectivement, re-questionner aussi qu'est-ce que ça veut dire vivre, qu'est-ce que ça veut dire bien vivre, qu'est-ce que ça veut dire créer du lien, qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre et qu'est-ce qu'on a besoin de produire. Est-ce qu'on a besoin de produire toujours plus pour vivre actuellement? Et ce qui est super important, c'est de partir, en fait, de la réalité des gens et d'aller dans l'ensemble de la France, et pour ça aussi qu'il y a différents groupes locaux, que, comme tu le sais tout à l'heure, on a fait des alliances avec Front de Mer à Verdragon, avec la Maison de l'écologie populaire. On fait du paillasson à paillasson, on va discuter avec les gens et en fait leur demander, pour elles et eux, c'est quoi l'écologie populaire, quelle est leur réalité, de quoi elles ont besoin. Et ensuite, le discours, c'est de le ramener dans la sphère politique des gouvernants et des multinationales pour avoir des changements globaux et pas juste proposer des changements individuels à chacun et chacune.
C'est vrai que là où je partage un peu la frustration de Mariam sur la promotion des alternatives, c'est que si cette promotion d'alternatives est faite au détriment d'une critique sociale, en fait, ça fait une promotion de fausses solutions qui ne s'attaquent pas au problème et qui, en fait, continue, être indifférente à de l'exploitation, à des inégalités. Alors, effectivement, je pense que les alternatives et la critique sociale, ça peut s'articuler. D'ailleurs, je pense que ça doit s'articuler parce que si on fait une critique radicale d'un système, il faut qu'on puisse proposer d'autres systèmes alternatifs derrière. Mais c'est vrai que j'ai aussi beaucoup ressenti de colère dans mon parcours parce que, en fait... je vois des gens qui, en fait, avaient besoin de, on dirait, entre guillemets, solutions positives, et c'est tout légitime que de chercher du bien-être et du réconfort. Mais je ressentais vraiment le besoin urgent que ça se fasse pas au détriment de la réalité sociale. Donc, moi, je pense pas forcément toucher de la même façon. Mais c'est vrai qu'articuler les deux, c'est une question compliquée. En plus, Alternativa a cet historique de d'abord être passé par les alternatives avec un changement de discours progressif. Donc, c'est assez intéressant de se dire comment est-ce que ça évolue. Et d'ailleurs, si on parle d'évolution, tu disais que vous aviez déjà fait un blocage de Total. Mmh. Il me semble même que l'un de vos premiers faits d'armes qui a bien fédéré les militants, ça a été d'aller directement à Pau pour perturber. C'était aussi une AG ou c'était peut-être autre chose?
Non, c'était pas une AG à ce moment-là, c'était une raffinerie à Pau.
C'était une raffinerie à Pau.
Les Grands Puits.
Ah, donc c'était la raffinerie des Grands Puits. C'était en quelle année?
J'étais pas encore vraiment militant dans le mouvement.
C'était il y a bien longtemps.
Non, pas vraiment, c'était il y a quelques années, on va dire.
D'accord.
Mais c'était effectivement une des pierres qui a permis de faire avancer le mouvement considérablement, ouais.
D'accord.
Et juste, si je peux me permettre, par rapport à ça, je trouve ça hyper intéressant de dire que, en fait, le modèle dans lequel on veut, là où on veut aller, c'est on emmène tout le monde. Et justement, il faudrait vraiment faire attention à ce que l'écologie ne devienne pas quelque chose au détriment de certaines populations et de vraiment réfléchir collectivement à comment on fait pour emmener tout le monde dans ce nouveau système-là.
Ok. Si on parle d'évolution. Moi, j'étais curieux de savoir comment vous vivez l'évolution de la répression policière. Parce qu'on l'a vu, il y a différents consensus d'action qui vont nous soumettre plus ou moins à la colère et la foudre des forces de l'ordre, suivant que si on est blanc, que si on se déclare violent, que si. Mais je pense que malgré tout, Alternatiba, vous avez une certaine expérience du contact police et vous en avez pu constater des évolutions. Alors, justement, quelles sont-elles?
Ce qu'on a pu constater comme évolution assez récente, on a depuis, on avait, comme je l'ai cité tout à l'heure, des répressions juridiques, à savoir des procès. On en a, je dirais pas souvent, mais régulièrement.
Mais ça fait quelques années.
Ça fait quelques années, effectivement. Je parle par exemple les procès pour les personnes qui étaient allées décrocher des portraits de Macron dans les mairies, qui se sont retrouvées en procès. Donc
oui, c'était drôle ça.
C'était effectivement, on se retrouvait en procès pour ça. C'est quand même quelque chose. Ou alors des gardes à vue abusives pour avoir sali des moquettes dans des assemblées générales. On a fait des gardes à vue pour ça, pour avoir taguer des rues ou bloquer des rues. Donc, il y a vraiment une répression juridique. Il y a une répression financière, à savoir qu'on a des amendes abusives avec des montants exorbitants.
Ouais, tu en as parlé, mais comment... Les évolutions, en fait, récentes, moi, c'était ça qui m'intéresse.
Les évolutions récentes, je pense que là, c'est vraiment la répression physique sur le terrain, notamment là, avec l'Assemblée Générale de Total Énergie. Actuellement, le mouvement Climat et Alternative à Paris, à travers les actions des obéissances civiles non violentes, on n'avait jamais été vraiment confronté à un tel niveau de violence physique. Et je pense que c'est ça qui est inédit lors de cette action.
D'accord. Donc ça a marqué vraiment pour toi une étape
Je pense que ça a clairement marqué une étape pour le mouvement qui va aussi nous donner matière à réfléchir. Parce que, en fait, comment on va collectivement, potentiellement, se faire violenter physiquement.
Peut-être que le parallèle est mal placé, mais j'ai l'impression de voir un peu un écho avec l'ultra-violence qui s'est déroulée en mars dernier à Sainte-Soline, qui a évidemment conduit les organisations à se remettre en question, parce qu'il y a eu de la colère de la part des militants, des traumas, évidemment. Je pense que la question, peu importe le contexte, c'est toujours intéressant de se la poser. Et du coup, ça fait aussi le lien avec une question qui, à mon sens, est cruciale dans les mouvements militants, c'est celle du soin. Mais il me semble que justement, Alternatiba, c'est quelque chose qui te tient à cœur, donc je pense que tu peux en parler un peu.
Ouais, carrément. Merci pour l'occasion de pouvoir parler de ça, qui, je trouve, en fait, est essentiel dans dans les mouvements en général et de parler du soin parce que c'est super politique. Le soin, c'est comment vivre ensemble et comment faire advenir toutes ces choses-là. Et donc, très concrètement, si pour peut-être prendre appui sur l'Assemblée Générale de Total, en termes de soins, il y avait en fait toute une préparation en amont qui fait déjà partie du soin avec qu'est-ce que vous allez vivre en tant que militant et militante sur le terrain, à quoi il faut vous préparer, comment vous préparer avec des formations, avec des médics. Il y avait beaucoup de médics sur place. Et ensuite, concrètement aussi, le jour, on forme aussi à la garde à vue. Parce qu'en fait, c'est pas anodin de passer 24, 48, 92 heures en garde à vue. Et c'est pas forcément évident de se retrouver tout seul ou toute seule dans une cellule. Donc, on fait déjà, je dirais, de la prévention, préparation à tout ce qu'on pourrait vivre. Mmh. Et concrètement, sur le terrain, on avait aussi ce qu'on appelle, nous, communément, la BABEM, la base arrière BEM. BEM, à savoir bien-être militant.
Ah, les acronymes.
Les acronymes, toujours plus d'acronymes. Donc la base arrière bien-être militant, qui était donc un peu décalée par rapport à l'action et qui n'était pas forcément très identifiable de prime abord, et qui était un endroit où à tout moment, si une personne ne se sentait plus avec l'action et ce qu'il était en train de vivre, pouvait sortir et se retrouver dans cette BABEM où il y avait à la fois un besoin matériel qui pouvait être fourni, des boissons ou de la nourriture, un besoin physique, on pouvait s'enlacer et se faire un câlin pour se remonter le moral, et aussi des espaces de discussion, parce que c'est hyper important de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on a vécu, de pouvoir le partager, ou en fait simplement sans discuter, être avec des gens et pas se retrouver tout seul en plein milieu de Paris à côté de la salle Playel, complètement désarmé après toute l'intensité qu'on vient de vivre. Donc ça, c'était vraiment au cœur, pendant même l'action. Et ensuite, par la suite, on a fait des débriefs qui sont super importants et on a une grande part à l'écoute et au ressenti de chacun chacune. On a proposé ce qu'on appelle des cercles de parole, qui sont des moments où on peut échanger les uns les unes les autres sur ce qu'on a vécu. Il y a eu proposé des soins un peu plus spécifiques avec une psychologue. On était en lien avec une psychologue pour cette action. Donc on voit que, très pratico-pratique, il y a beaucoup d'importance qui est accordée aux soins lors de nos actions aussi.
Ouais. Petit rappel sur vraiment le fait que des ressources en ligne sur des collectifs qui font du soin, de l'antirépression, il y en a pas mal. On pourra en mettre peut-être sur le résumé de l'émission. Et vraiment rappeler l'importance cruciale de ne pas rester seul suite à des actions qui sont choquantes ou traumatisantes, parce que vraiment le soin, sur le coup de l'événement ou rapidement après, ça peut faire beaucoup de différence pour pouvoir avoir des espaces de parole, de discussion. Et justement, visiblement, vous en avez eu directement à Auchos sur l'événement. Je suppose que vous avez eu, maintenant, ça fait quand même une vingtaine de jours, donc vous avez eu peut-être des débriefs à froid. Tu participais à ces briefs-là, à ces espaces-là. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce qui en est ressorti, globalement ?
Ouais, j'ai participé à certains de ces débriefs. Ce qu'il en est ressorti, c'est, je pense, une vraie fierté d'avoir atteint quand même les objectifs opérationnels et politiques. Ça a été très médiatisé. Il y a eu effectivement aussi beaucoup évoqué la violence policière, des personnes vraiment en détresse psychologique et qui ont sollicité une psychologue. Et peut-être aussi de l'interrogation de où on va, comment on le fait, comment concrètement je mets mon corps ou pas à disposition et potentiellement subir ces violences-là. Donc c'était des débriefs très complexes, très intéressants, qui partaient dans tous les sens et aussi avec vraiment la notion de tout le monde s'est senti là où il ou elle devait être à ce moment-là. Il n'y a pas eu de personne en se disant « mais qu'est-ce que je faisais là ?» Vraiment le sentiment de faire corps et d'être collectivement présent là a été vraiment mentionné par toutes et tous.
J'avoue que je suis soit étonné, soit un peu sceptique qu'il y ait pas eu de voix dissonante ou discordante, mais j'étais pas là, donc je vais pas
Félicite, préjuger. Tout simplement.
Déjà, oui. C'est chouette qu'il y ait eu ces espaces-là que je rappelle sont quand même très importants.
Je pense qu'il y en a peut-être eu individuellement, mais c'est vraiment pas ce qui ressort dans la globalité. Et je pense qu'effectivement, il y a peut-être des personnes qui sont pas reconnues à 100% dans ce mode d'action-là, mais c'est le mode d'action qu'on leur proposait et le cadre qu'on leur proposait aussi pour protéger individuellement les gens. Donc c'est plus ce qui ressort généralement des débriefs, quoi.
Ok. Parce que c'est vrai que pour moi, un des écueils, à mon sens, c'est que on fasse des débriefs à chaud ou à froid, et que les débriefs soient faits, on a discuté. Un peu comme, on va dire, pour caricaturer une consultation citoyenne où on demanderait un avis sur un énorme aménagement. On dit, on vous a consulté, maintenant c'est bon, on peut fermer ça. Donc, c'est pas forcément facile de traduire par des remises en question et des évolutions ces débriefs, mais pour moi, ils sont vraiment cruciaux. Donc, c'est ce que en tout cas, je vous le souhaite et je vous félicite de les avoir faits.
Et ils sont cruciaux aussi dans le fait qu'il faut les relire quand on va repréparer une prochaine action et se dire, pas retomber dans les mêmes erreurs que l'on fait lors de toutes les actions. Et c'est un vrai travail, en fait, parce que c'est méga complet et méga riche, un débrief. Et de l'adapter à de nouvelles actions, c'est vraiment un vrai... c'est super important.
Oui, c'est capital, parce que les associations évoluent, les institutions et les forces de l'ordre aussi. Donc, c'est quelque chose, malgré tout, à ne pas négliger. Bon, pour rester sur quelque chose de un peu plus léger, on peut faire encore une dernière pause musicale avec « La mer monte » de... MC Droopy, je le prononce bien.
Oh, when the sea is coming over, what you gonna do? Pay a bribe. You fucking bankers too will die, and we'll make sure y'all go 6 miles under.
when the sea is coming over. Quand la lutte des classes a charmant pris l'eau pédo, qui ne reste que la fonte des glaces pour monter au créneau, brûler leurs drapeaux et sortir nos banderoles, crier à la ronde qu'on ne se laissera pas couler sans avoir bien gueulé. Marre d'enfoncer les portes ouvertes, alors on les dégonde sur un Titanic de fric avec 300 patrons dans un brouillard de plomb de Saint-Félix de Palière au sommet de la Oroya. Et ouais, Roya, démon d'un soir, crachant sur vos faux espoirs et vos manigances de curé. Putain, mais votre croissance verte, vous pensiez vraiment qu'on allait à la vallée? Oh, when the sea is coming over, what you gonna do? They are blind. Before the bankers do, we'll die. And we'll make sure y'all go 6 miles under. Oh, when the sea is coming over. De femmes, d'hommes que des volontaires. Quand la révolte populaire se part de rance et d'amère, bande de raclures aveuglées cherchant encore l'iceberg au loin, alors que la coque est brisée en mille. Je vois les hordes d'affamés faire la queue dans la file, et les scandales d'état qui s'empilent pendant que la zone prend feu. Mourune pas au Grasberg, y'en a coach à Cayenne, on ratiboise sévère pour quelques vulgaires lingots. Monde en vrac dirigé par une sale clique de pervers des glingos. Leur ruissellement, celui du sang des innocents le long des avenues. Premier de cordée, premier pendu. Oh, when the sea is coming over, what you gonna do? Bring a bribe. You fucking bankers too will die, and we'll make sure y'all go 6 miles under. When the sea is coming over. Autogestion en temps de crise, ça se forme sur le terrain, la révolte s'organise un peu, sûrement pas de quoi faire plier vos flics. 8-4, le talon de fer, on a lu nos classiques. L'avenir ne sent rien de bon, mais la chienlit a ce charme des belles nuits étoilées. Alors, maintenons la pression de Lausanne à Calais, de Manchester à Moscou, et ne retenons pas nos coups. Écoutez la mer qui monte, écoutez-la bien, c'est les poches pleines à craquer, tout crèverait sans prier, oppresseurs, exploitants, profiteurs, tout puissants. À la fin, c'est le chaos qui gagne et vous qui vous noyez. Oh, when the sea is coming over, what you gonna do? They are the bribe. You fucking bankers do or die, and we'll make sure y'all go 6 miles under. Oh, when the sea is coming over.
Radio Liberté 89.4, vous êtes toujours avec nous sur Délibéré et vous venez d'écouter La Mer Monte de MC Droppy. J'aime beaucoup cette chanson parce que effectivement elle revient sur quelque chose qui m'interpelle, qui est tout simplement l'évocation de l'effondrement. En fait, ce récit qui est proposé par beaucoup d'associations ou de collectifs écologistes pour forcer ou en tout cas créer une impulsion militante, activiste chez les personnes qui pourraient être indécises. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette théorie. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler déjà, Antoine? Quel est votre point de vue à Alternativa?
Est-ce que tu pourrais juste un tout petit peu préciser qu'est-ce que tu entends par cette théorie exactement?
En fait, qu'est-ce que vous proposez pour que, finalement, ça entraîne des militants et militantes à vous rejoindre? Est-ce que vous préférez prôner l'idéal d'une société potentiellement améliorable, ou est-ce que pour vous, c'est le récit d'un effondrement inévitable qui va forcer les gens à se révolter, en fait? Est-ce que pour vous, c'est la seule manière de mettre en mouvement les personnes qui pourraient éventuellement être plus frileuses?
Yes, merci pour ces précisions. Je pense qu'effectivement, les gens, souvent, quand ils rejoignent un mouvement, le mouvement climat, c'est plutôt ce que tu évoquais vers la fin, le on va droit dans le mur, on peut rien y faire, qui peut-être nous fait nous mobiliser. Et qu'en fait, une fois qu'on rejoint ces mouvements-là, on voit aussi que, en fait, on vit tout autrement ces aventures, et c'est vraiment juste s'engager, qui est déjà une aventure, et déjà on vit quelque chose, on vit un autre monde, et c'est aussi le vers quoi on veut aller, l'importance de promouvoir quelque chose pour, on lutte pour un monde soutenable et juste pour toutes et tous, qui fait qu'on reste. Donc c'est peut-être, on vient parce qu'on est un peu désabusé, un peu éco-anxieux, éco-anxieuse, ce qui est tout à fait légitime quand on voit l'inaction des gouvernements, et qu'on reste parce qu'on sait où on va. En tout cas, on sait où on veut aller et comment on le vit quotidiennement dans ces mouvements-là.
Ok. Mais du coup, c'est vrai que quand on parlait de collapsologie, il y a effectivement, comme tu le dis, la légitimité des angoisses par rapport à un état du monde et des perspectives d'avenir qui sont pas engageantes. Pour moi, cette angoisse, elle est aussi alimentée par une impression d'incapacité à agir. Et c'est vrai que y a des mouvements collapsologistes qui prônent en fait l'acceptation d'un état de fait, la création de entre guillemets communautés résilientes, donc quelque chose qui s'approche du survivalisme quelque part. Et je sais que c'est des discours qui ont beaucoup de force parce que en fait l'angoisse c'est quelque chose qui attrape très fortement les gens. Mais est-ce que c'est des trucs qui sont intéressants pour, enfin qui amènent les gens à l'action en fait?
Je pense que potentiellement, ça amène les gens à l'action. Je ne sais pas dans quelle mesure ils restent ensuite dans les collectifs et notamment dans le collectif Alternative à Paris. Et peut-être que, le fait d'avoir cette vision-là, en tout cas d'une fin du monde imminente, ce n'est pas du tout la vision qu'on partage, nous, à Alternative à Paris. Mmh. Et de toute manière, rappeler que chaque dixième de degré compte, parce que... On lutte pour nous avoir un monde différent et en fait les scientifiques et les rapports de GIEC sont hyper clairs là-dessus. Un monde à plus 1, plus 2, plus 3 ou plus 4 degrés, c'est pas du tout la même chose. Peut-être que, encore une fois, nous à Paris, on verra pas tant de différence que ça, mais les personnes les plus impactées, ça va être les pays du Sud, les pays dits, pardon, du Sud, et les femmes, qui sont aussi les personnes les plus impactées par les dérèglements climatiques. Et en fait, pour elles et eux, un monde à plus 2 degrés ou un monde à plus 4 degrés, ça n'a rien à voir. Donc c'est super important de gagner des petits dixièmes de degrés pour sauver en fait des écosystèmes et le vivant et des humains derrière tout ça.
Moi, je viens de vous écouter sur la collapsologie et c'est une théorie qui, moi, me tient un peu à cœur. Quand j'ai lu le livre de Pablo Servigni sur la collapsologie au lycée, j'étais là, waouh, là, c'est le moment où je vais m'engager pour le climat. Là, c'est vraiment, il faut que je fasse tout mon possible pour militer, pour me politiser, pour changer. Et du coup, votre façon de voir la collapse, je ne suis absolument pas d'accord. Je pense que c'est ça, il y a des dérives. Et il ne faut pas arriver aux dérives comme dans n'importe quel concept. Mais je pense que c'est quand même une théorie qui est très importante maintenant dans les luttes climatiques parce qu'elle porte quand même un discours. Enfin, ce n'est pas juste une théorie pour... propager la terreur au sein des mouvements écologistes ou même au sein de la population, mais c'est plutôt basé sur des faits scientifiques. Il y a le rapport du GIEC qui sort chaque année quand même, et la COP, enfin on parle des enjeux climatiques, on voit bien, il suffit juste de regarder les cartographes, parler des pays ou la banquise, par exemple, c'est des faits qui se reposent. Enfin, c'est une théorie qui repose quand même sur des faits scientifiques. Et je pense donc qu'il ne faut pas non plus l'accabler comme une théorie qui pousse plutôt à l'apocalypse, mais plutôt le voir comme quelque chose qui vient compléter les annonces scientifiques et pour les prévisions météoriques pour la planète dans les prochaines années à venir. Et en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, m'a permis de m'engager. Et même maintenant, c'est un truc, la collapsologie, il faut le voir comme vraiment un truc qui est là pour conscientiser les jeunes à militer pour le climat. Et non, juste être là, non, c'est juste une théorie pour encore plus provoquer des locaux anxiété chez les gens. Après, ça arrive. Il suffit juste de parler de la collapsologie à quelqu'un et le lendemain, la personne t'appelle. Ah, j'ai peur de mourir demain. Tu vois, c'est. Non, mais voilà.
J'ai besoin de préciser un petit peu. À nouveau, pour moi, l'angoisse face à l'état du monde et ses perspectives à venir, elle est complètement OK parce que le constat de l'effondrement des écosystèmes et de la biodiversité et de l'évolution des températures, effectivement, c'est un truc qui est avéré, qui ne fait plus débat. En revanche, moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans les récits collapsologiques, collocologistes, parce que pour moi c'est des récits, c'est que en fait il y a un peu c'est quelque chose de posé comme quoi c'est inéluctable, que c'est quelque chose qui va arriver et que ça, il y a toute une science autour qui aurait été faite. Et ça, c'est vraiment peut-être la discussion. D'un côté, bon, en vrai, on peut même critiquer à certains points de vue l'institution du GIEC. Ça devrait faire le. En vrai, il nous faudrait une heure de plus pour ça, donc on ne va pas le faire. Par contre, la limite est franchie quand Pablo Servigne dit j'ai une discipline scientifique, c'est la collapsologie. Ça, c'est beaucoup plus discutable parce que je ne remets pas en question ses lectures et c'est très bien s'il a écrit des choses et qu'il encourage les gens à prendre conscience de l'urgence. Par contre, poser le fait que, de toute façon, il faut juste s'attendre à ce que ça s'effondre, ça, ce n'est pas tout à fait scientifique.
Oui, ça, ce n'est pas scientifique. En plus, ça, c'est vraiment sa cause. Enfin, ça décèle complètement la cause. Parce que moi, je suis là, enfin, si je pars du principe que la planète, elle va s'effondrer dans. Peu importe ce qu'on va faire, bah, ça ne me donne pas envie de militer. J'ai juste voilà, envie de rester chez moi et glander toute la journée. Donc,
c'est ça.
C'est plutôt, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut plutôt le voir comme un outil pour militer et se dire, ah, il y a de l'espoir parce que c'est des faits scientifiques. Et aussi, dans les rapports du GIEC, il y a des solutions qui sont apportées pour dire, si on arrive à atteindre ça, si on arrive à mettre ce genre d'alternatives et à mettre des objectifs clairs, et si les décideurs politiques, si on peut compter sur eux, bien évidemment, prennent leurs responsabilités pour mettre des vraies mesures en place pour la planète, il y a possibilité de changer la tendance vers une planète qui va se porter mieux dans quelques années. Mais oui, non, il faut pas non plus, il faut pas crier. Ah non, il faut ne faites rien, restez chez vous, peu importe ce que vous allez faire, n'allez pas dans les manifs. La planète, elle va s'effondrer. Enfin,
peut-être qu'on peut le voir que une étape dans le parcours.
Oui, voilà.
Bah, en fait,
Je tenais aussi à dire que c'est vrai qu'on parle beaucoup de scientifiques. Bon, les scientifiques n'ont pas la primauté de toutes les informations et la vérité. Hein. Rappelons que si c'était le cas, bah, je pense que depuis les années 60, on aurait entamé des transformations politiques et sociales. Donc bon, on a aussi certaines limites au niveau des scientifiques et ils n'ont pas la science infuse, sans mauvais jeu de mots. Mais tant qu'on est sur la question des imaginaires, Iris, oui.
En fait, moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est à Alternativa, finalement, ce que vous pouviez, en fait, si vous avez rencontré des difficultés, justement, à promouvoir des imaginaires peut-être plus concrets, positifs, étant donné que vous, vos modes d'action, c'est surtout finalement des actions coup de poing qui font l'actualité médiatique et donc qui permettent à des personnes de se rendre compte, effectivement, qu'il y a une urgence. Mais est-ce que, après, vous proposez quelque chose à toutes ces personnes qui vous rejoignent pour militer pour le climat ?
Ouais, tout à fait. En fait, je pense que je rejoins plusieurs prises de parole que vous avez faites, à savoir que ben la collapsologie peut-être ça invite à l'action parce que on se sent on a un besoin de contribution et qui peut se révéler par un engagement. Je partage moins l'avis sur l'avis des scientifiques qui n'ont pas. En fait, c'est juste que les gouvernements décident de ne pas les écouter et le disent depuis très longtemps hein, de vers où on va et c'est plus en fait. Le modèle capitaliste qui ne les écoute pas et la responsabilité des gouvernements. Et je pense qu'il y a, en fait, il y a quelques années, on n'avait pas de récit collectif de vers quoi on voulait aller. On luttait contre beaucoup, mais on ne luttait pas pour. Et en fait, c'est fondamental aussi de lutter pour quelque chose et pour un monde plus juste, pour un monde plus juste socialement et écologiquement désirable pour toutes et tous. Et du coup, là, je citerai deux livres, à savoir « Essi » et « Notre Grand Paris ». Notre Grand Paris, qui est un livre écrit notamment par le collectif Alternative à Paris et qui est sorti en automne dernier, qui est en deux grandes parties. Une première partie qui est sur l'état des lieux de l'Île-de-France à l'heure actuelle, donc quel est le constat. Et ensuite, toute une deuxième partie de vision. Comment serait, selon nous, une vision possible de l'Île-de-France en 2050 ? Donc il y a un peu ces deux grandes étapes. Et maintenant, la troisième grande étape qui est comment on va de l'un à l'autre, qui est l'étape en cours de réflexion et qu'on construit tous les jours, comment on incarne ce nouveau monde que l'on veut voir advenir et comment on va vers ce monde-là, quoi.
Eh bien, écoute, lutte pour ou lutte contre, moi, de toute façon, je suis pour la lutte, du moment qu'elle est sociale et écologique, antiraciste, etc.
Je pense que du coup, on va quand même s'acheminer vers la fin de cette émission pour laisser nos camarades prendre la place au studio. Du coup, j'ai juste rappelé que après nous, nous avons les chroniques syndicales qui passent et qui vous parleront de la sociologie de la misère et également de tactiques anti-répression. Donc, je pense que ça fait assez bien suite finalement à notre discussion, puisque comme vous le faites à Alternativa, je pense qu'on a tous besoin d'être en ce moment préparés à ce qui nous attend, puisque le mouvement social est toujours vivace et ne demande qu'une étincelle pour perdurer. Donc on va peut-être se quitter sur une touche de candeur avec Le pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats. Pour changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles comme des pétales et des corolles qu'écoutaient en rêvant la petite fille autour de disque fort.
Escrime, flairant dans tous les coins les hasards de la rime, trébuchant sur les mots comme sur les pavés. sortant parfois des verres, depuis longtemps rêvé, ce père nourricier, ennemi des chloroses, éveille dans les champs les vers comme les roses. Il fait s'évaporer les soucis vers le ciel et remplit les cerveaux et les ruches de miel. C'est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles et les rend gais et doux comme des jeunes filles, et commande au moins soin de croître et de mûrir dans le cœur immortel qui toujours veut fleurir. Quand ainsi qu'un poète, il descend dans les villes, il ennoblit le sort des choses les plus viles et s'introduit en roi sans bruit et sans balai dans tous les hôpitaux et dans tous.
Laissez-moi, Burniol. Service rapide. Et je contente. Et même la veuve du guignol. Et vu que je fais le service après-vente. Les temps sont durs, c'est pas Mariole. Vive mon cœur vienne le choléra. Je pourrais changer de chignole et me payer le cinéma. Et si le choléra marche bien, je pourrais faire des folies. J'agrandirai mon magasin et je prendrai des apprentis. Je serai la maison Borniol, le supermarché de la mort, cercueil à fleurs pour les pauvres mômes et à roulettes pour les vieillards. Je serai la maison Borniol, Borniol, Borniol. Maison Borniol.
et maison Borgnole. Et bière, cercueil, catafalque, maison Borgnole. Et son Borgnole. Et demandez notre catalogue, Tony Vermison Borgnole. Et son Borgnole.
Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord, parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat ? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire au débile que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge, enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars, le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouge, anti-américain, espion japonais, saboteur de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Seta aussi, au joint français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
Chronique syndicale ce matin avec Loïc Vacan, qui est déjà venu il y a quelques temps dans ce studio, nous parlait des ghettos noirs et de la boxe dans ces ghettos, et qui aujourd'hui va discuter avec moi sur la question centrale de son ouvrage, dont le titre est « Misère de l'ethnographie, de la misère », aux éditions Raison d'agir. Bonjour.
Bonjour.
Loïc.
Et merci de cette invitation.
Ouais, tu nous dis en deux mots un peu, très rapidement, qui tu es, d'où tu parles, et puis surtout, la question qui est sans doute un peu centrale, c'est quoi l'ethnologie, l'ethnographie, toutes les différences entre ces choses?
Alors, ben, je suis sociologue, professeur à l'Université de Californie, à Berkeley, qui est une université publique. Souvent, les gens pensent que c'est une université privée parce qu'elle est très renommée, mais non, je fais partie du service public en Californie et chercheur associé au Centre européen, européen de sociologie et de sciences politiques. Et mes spécialités de recherche sont la marginalité urbaine comparée, le corps, l'état pénal, et puis la théorie et l'épistémologie sociologique, qui sont une réflexion sur comment le sociologue ou l'ethnologue ou l'anthropologue produit son objet et comment il valide le savoir qu'il produit.
Ouais, c'est comment il le regarde, comment il analyse et qu'est-ce qu'il produit comme savoir autour de sa... de son observation, quoi.
Oui, l'épistémologie, c'est en quelque sorte se mettre en retrait et regarder